Salut à tous, bienvenue dans l'After Allemagne, votre podcast 100% Bundesliga et football allemand. Une émission à retrouver en podcast sur l'appli RMC, à télécharger sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube et dans vos télévisions avec l'After Foot TV. Et football de demi-dieu, chef-d'œuvre, match du siècle. Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse internationale après le match aller au Parc des Princes qui a abouti sur la victoire 5-4 du PSG face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Un match référence, peut-il nous en offrir un autre et d'une qualité même supérieure? Voici le thème de l'After Allemagne. Bayern PSG, doit-on s'attendre à un match retour aussi spectaculaire? Et si oui, pourquoi? Que faire des points faibles ciblés à l'aller? La défense bavaroise doit-elle se remettre en question? Luis Diaz face à Warren, Zahir Emery sera-t-il le principal duel de ce nouveau spectacle? Et puis comment la prestation de Michael Olise au Parc a été vue en Allemagne? Toutes les réponses dans l'After Allemagne, c'est parti.
RMC, After Allemagne,
Alex Biggerstaff.
Et dans cet After Allemagne au casting, notre drôle de dame est présente, que vous retrouvez bien sûr tous les lundis dans l'After, monsieur Polo Breitner. Salut Polo!
Bonjour Alex, bonjour tout le monde!
Il est en pleine forme, Polo Breitner, et avec nous également Vivien Tillen, supporter du Bayern Munich. Salut Vivien!
Bonjour tout le monde!
Merci à tous les deux d'être avec nous, Polo! Peut-être une première petite question quand même sur ce match aller entre le PSG et le Bayern. Certains l'ont dit clairement, notamment nos amis de l'After Paris, c'était le match de l'année, voire un match du siècle aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, sur le moment. C'est-à-dire que ce qui est adorable en Allemagne, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle un Feuerwerk, un feu d'artifice. Et évidemment, avec une qualité technique qui est extraordinaire et qui, à mon humble avis, est une notion qu'il faut prendre, hein, une caractéristique qu'il faut prendre, parce que ce n'est pas juste des buts. C'est-à-dire que certains, Manuel Neuer s'est pris 5 buts, il a pu faire aucun arrêt, mais surtout, est-ce que les ballons étaient attrapables? Moi, je ne pense pas. Donc, on avait une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc, dans ces analyses qu'on a, par contre, un peu comme en France, 24 heures, 48 heures après, on a commencé à se poser la question, est-ce que c'était vraiment un match de football? Est-ce que ça préfigure l'avenir? Et donc, tout le monde est dithyrambique sur cette rencontre qui, pour une question de spectacle, est génialissime, un peu comme ce qu'on a entendu un peu partout en Europe. Et ensuite, quand on prend un peu de recul, on dit, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Et c'est ça qui est fabuleux, parce que à l'instant T, lorsque la rencontre s'est finie, on s'en fiche de savoir si le PSG va se qualifier, si le Bayern va se qualifier. En Allemagne, ils disaient que c'était juste formidable. Donc, c'est cette fameuse phrase de Didier Hamann, 5-4 égalité en français, il a dit. Donc, c'est génial. Maintenant, encore une fois, ça pose énormément de questions qui sont toutes plus passionnantes, je trouve, les unes que les autres.
Et on va se les poser dans l'After Allemagne, bien sûr. Vivien, ton avis, est-ce que c'était le match de la décennie, le match de l'année, ce PSG-Bayern?
Alors, de la décennie, je ne sais pas. En tout cas, le match de la saison, pour l'instant, oui. Et j'ai trouvé que ça allait pas que dans tous les sens. Hein. Il y avait aussi de la maîtrise. Il faut tirer aussi
de la folie maîtrisée un peu, c'est ça?
Exactement. Moi, j'ai trouvé, certes, les défenseurs, que ce soit parisiens, et bavarois, sur certaines situations très bons, qui ont vraiment très bien négocié certaines situations. C'était pas que de la folie tout le temps, il y a eu des moments de calme aussi, des moments de maîtrise, et on a eu côté parisien, côté bavarois, des moments d'explosion, donc surtout en deuxième mi-temps là, avec les deux buts de coup sur coup du PSG, et le Bayern qui a répondu alors qu'on pensait à ce moment-là qu'ils pouvaient en tout cas s'en prendre un septième, un sixième, pourquoi pas. Donc ça m'a rassuré, hein, moi, personnellement, de les voir relever la tête et de recoller au score, hein, pour le match retour. Mais non, j'ai trouvé que c'était pas uniquement du feu d'artifice, il y avait aussi pas mal de maîtrise, surtout du côté bavarois.
Une magnifique impression visuelle. Pourquoi c'était la folie? On va vous raconter ça en chiffres aussi. Beaucoup de chiffres à vous partager dans cet After Allemagne. Regardons tout d'abord le tableau de ce match historique entre le PSG et le Bayern. PSG-Bayern, premier match de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir vu 5 buts marqués en une seule période. Paris est la première équipe à inscrire 3 buts à ce stade avant la pause depuis le Real Madrid en 2014. Clin d'œil, c'était face au Bayern Munich. C'est la première fois aussi depuis près de 20 ans que le PSG encaisse 4 buts à domicile. La dernière fois, il fallait remonter à novembre 2006. C'était en Coupe de l'UEFA contre l'Apoel Tel Aviv. Et puis le Bayern Munich, de son côté, n'avait plus encaissé 5 buts sur la scène européenne depuis 31 ans. La dernière fois, en avril 95, en demi-retour de Ligue des Champions sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Et puis il faut remonter, là aussi c'est dingue, à presque 66 ans pour voir 9 buts lors d'une demi-finale européenne. C'était à l'époque une équipe allemande déjà, 6-3 entre Francfort et les Glasgow Rangers le 8 mai 1960. D'autres chiffres encore, il y en a plein. C'est la première fois que 3 Français inscrivent un but dans une demi-finale de Ligue des Champions dans ce PSG Bayern avec Ousmane Dembélé, avec Michael Olysee et aussi d'ailleurs Upamecano. Et puis pour finir sur Michael Olysee quand même, auteur d'une saison stratosphérique, et on a eu l'occasion de le dire maintes et maintes fois dans l'After Allemagne, sur son égalisation à 2 partout, il est devenu le premier élément des 5 grands championnats européens à atteindre cette saison la barre des 20 buts et 20 passes décisives, en l'occurrence 25, toutes compétitions confondues. Incroyable Michael Olysee. Pour terminer comme ça sur ce nombre incalculable de chiffres à partager, le PSG a cadré 5 tirs pour un total de 12 frappes lors de ce match aller. Et alors le Bayern, attention, a été précis 7 fois pour 10 tentatives globales. Voilà ce qu'on appelle quand même de l'efficacité. Au retour le 6 mai prochain à l'Allianz Arena, doit-on s'attendre à un match aussi spectaculaire et pourquoi? Juste avant d'avoir les avis de Paulo Breitner et de Vivien, voici ce qu'en pense l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany.
Que diriez-vous à ceux qui, malgré cette merveilleuse armada offensive, s'interrogent quant à la défense?
Je leur demanderai que voulez-vous. Je pense que vous avez vu une bonne défense aujourd'hui, des duels intenses, mais les marges sont si minces que vous n'avez que 2 solutions. La première, c'est de foncer, et la deuxième, c'est de complètement reculer. L'entre-deux ne fonctionne pas face à des joueurs de ce niveau, ça ne fonctionne pas non plus avec le niveau de nos joueurs.
Donc la semaine prochaine, lorsque vous serez de retour sur le banc, quel sera le message fondamental? Faire la même chose? Plus.
Plus, il en veut plus, Vincent Kompany. Polo, est-ce qu'on doit s'attendre à un match tout aussi spectaculaire lors de ce match retour? Et si oui, pourquoi?
Bon, la philosophie de Vincent Kompany, elle est quand même assez claire. Hein. Si vous rajoutez les 3 attaquants de devant, donc Olysee, Luis Diaz et Harry Kane, c'est 100 buts à eux 3 sur la saison. Je ne parle même pas des passes décisives, etc. Donc c'est assez phénoménal. On a, à mon avis, quasiment jamais vu ça dans l'histoire du football. Le Bayern ne sait pas faire autre chose. Le Bayern aime marcher sur ses adversaires. Mais il y a un facteur, moi, qui me semble important et qu'encore une fois, beaucoup de personnes ont oublié, c'est la qualité technique qu'on a vue lors de cette rencontre. Ce n'est pas un match fou dans le sens où il y a des erreurs dans tous les sens. Moi, je comprends. Alors peut-être que parce qu'à mon humble niveau, j'étais défenseur central, j'ai une tendance à les défendre. Mais que peuvent faire les centraux face à la qualité des frappes des Parisiens et aussi à la frappe des Bavarois? Je ne sais pas trop. À la rigueur, on peut reprocher à Marquinhos et Pacho de ne pas avoir fermé au centre lorsque Olysee a mis le 2-2. Mais c'est très compliqué parce que, comme l'a très bien dit Vivien, il y a eu un nombre aussi d'arrêts, d'actions empêchées qui étaient assez impressionnants. Et si j'avais une critique à faire à ce qu'a provoqué Kompany, c'est lors des dernières minutes de jeu, lorsqu'il y a 5-4, parce que les Bavarois ont encore essayé d'aller égaliser pour le 5-5, à tel point qu'ils se retrouvaient, lors des contres parisiens, à défendre un contre un à 40 mètres de leur but. Là, c'est peut-être une prise de risque qui est trop importante. Mais c'est ce qui va se passer à Munich la semaine prochaine, avec le risque, évidemment, et on l'a vu avec l'action de Dembélé qui ouvre son pied n'importe comment, mais si tu réussis à trouer la défense de cette façon et le milieu de terrain, il y a une occasion de but directe pour les Parisiens. C'est ça, c'est dans la gestion à la rigueur de la rencontre, il y a des moments que je ne comprends pas trop. À 5-2, pour moi, les Parisiens doivent se poser quelques questions. Est-ce qu'on peut être un peu moins offensif, essayer de mieux défendre, etc. Ben non, ils ont permis aux Bavarois de revenir à 5-4. Alors évidemment, quand tu es du côté bavarois, on te vend le narratif différent. On te dit c'est une équipe qui ne veut jamais perdre. Donc on te dit ben, c'est normal qu'ils soient revenus. Mais d'un point de vue technique, peut-être que dans la gestion des 90 minutes, il y a des moments où il faut être plus précis et se dire « Ok, un 5-2, c'est fini, pas besoin d'en mettre un sixième. On essaye de voir, de faire rentrer des joueurs, hein, je ne sais pas, etc. » Mais en tout cas, c'est l'avis que j'avais après la rencontre. Mais moi, les 5 dernières minutes bavaroises, Lorsque je suis à 4-5 avec des défenseurs centraux qui doivent défendre à 40 km de, à 40 km, à 40 mètres de leur but en 1 contre 1, quand on connaît la réalité et la vitesse des Parisiens, c'est quand même une prise de risque, c'est presque un all-in, quoi. Et 6-4, c'est pas la même chose. 5-4, encore une fois, Didier Hamann, égalité. Mais ce qui est très important aussi, c'est l'image des Parisiens en ce moment en Allemagne, qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est passé, c'était un journaliste qui le disait avant la rencontre, on est passé d'un PSG bling-bling à un PSG boum-boum. Et ça, je trouvais ça assez impressionnant aussi à ce niveau-là. Évidemment, le boum-boum fait référence à Boris Becker, c'est-à-dire que dès qu'il frappait, c'était fini, etc. Et c'est un peu aussi, moi, c'est ce qui me frappe, et c'est pour ça que dans tous ceux même qui ont critiqué cette rencontre, ne pas oublier la qualité technique qu'on a vue sur le terrain pendant 90 minutes, c'était juste génialissime.
Vivien, est-ce qu'on doit s'attendre à un feu d'artifice similaire au match retour ?
En fait, je me pose la question, je ne suis pas sûr. Parce que là, il va y avoir la qualif au bout des 90, voire plus. Je ne sais pas s'ils vont prendre autant de risques, surtout du côté parisien qui ont un but d'avance. Je ne sais pas s'ils vont se jeter comme ça aussi. Disons que la folie du match, s'il y a une folie dans le match, ça va plus profiter aux Parisiens, c'est sûr. Parce que le Bayern va s'exposer, va jouer très haut. On voit Upamecano Eta qui joue devant le rang central. Et c'est le jeu vraiment pour Paris. En trois passes, ils sont devant le but. Donc on l'a bien vu au match aller, et on l'a vu contre Chelsea, on l'a vu dans d'autres matchs également.
L'approche bavaroise va être la même qu'au match aller, et ça ne changera rien avec ce but à remonter.
Non,
c'est vraiment
rien.
Paris qui peut changer en fait le scénario un peu de ce match.
Je pense que le Bayern, s'ils veulent passer, il faut qu'ils aient cette même philosophie. De toute façon, c'est celle qu'ils ont depuis le début de l'année. C'est pour ça qu'ils battent tous les records de buts.
Il n'y a aucune raison qu'ils changent, bien sûr.
Ils ne vont pas changer, mais ils peuvent mettre un peu d'eau dans leur vin en jouant un peu plus bas. Là, si Olise, d'ailleurs Polo l'avait très bien dit, si Olise avait marqué le but du 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, je ne suis pas sûr que le match soit emballé comme ça par la suite.
Sur le plan défensif, on reste un petit peu là-dessus. Les amis, on a parlé de Manuel Neuer, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'arrêts, qui encaisse 5 buts. Est-ce qu'on peut oser dire qu'il a été un peu point faible dans cette défense bavaroise, ou même est-ce que cette défense, Polo, doit tout simplement se remettre en question après avoir encaissé 5 buts, même si j'ai bien compris que pour toi, le niveau technique fait que ça s'est déroulé comme ça.
Mais moi, encore une fois, depuis 25 ans, le poste qui a le plus perdu à cause du désir de voir du spectacle, ce sont les défenseurs centraux. Dès qu'il y a un but, c'est eux qui s'en prennent dans la tronche. Ils n'ont plus le droit de faire de fautes sur les adversaires, ils n'ont plus le droit d'agripper, ils n'ont plus le droit de rien faire. Ils doivent juste être parfaits, sinon on estime qu'ils ont fait des mauvais matchs. Moi, je suis désolé. Lorsque je vois cette rencontre, je vois la qualité technique des attaquants. Je ne vois pas la faiblesse d'Upamecano, qui pour moi aujourd'hui est l'un des meilleurs centraux du monde. Donc moi, je veux bien. Et je voyais même sur les réseaux sociaux des gens dire « Mais on n'a jamais vu des défenseurs centraux aussi mauvais depuis 25 ans. » Mais Upamecano, il y a 30 ans, aurait été le meilleur central du monde. Enfin, il faut aussi être réaliste via l'évolution du football, sa capacité à comprendre le jeu, sa capacité à dézoner, etc. Donc je ne comprends pas tous ces débats. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. On devrait peut-être mettre un peu plus le curseur sur les latéraux. Kvara, quand il met son but, il enrhume complètement Stanisic. Est-ce que Davis, qui est d'ailleurs, on le sait maintenant, est sorti parce qu'apparemment, il a eu une petite alerte et Vincent Kompany n'a pas voulu prendre le risque, l'a fait changer et a fait rentrer Laimer. Est-ce que Laimer est au niveau à ce niveau-là ? Là, on peut se poser des vraies questions. Mendes, moi, quand j'entends Mendes en France, tout le monde dit que c'est le meilleur latéral du monde. Olise lui a fait l'amour pendant 90 minutes. Donc, au bout d'un moment, est-ce que c'est une question d'évolution du football et de ne pas de pointer individuellement chaque personne ? Moi, les personnes qui me disent « Manuel Neuer, il a 40 ans », bah oui, je le sais, ça. Il n'a plus à son prime d'il y a 10 ans. Mais ça n'en reste pas moins que c'est un gardien fabuleux et qui, toute la saison, a arrêté des ballons qui étaient arrêtables. Moi, je ne sais pas, lors de la rencontre PSG-Bayern, s'il y a des arrêts possibles pour un gardien d'1m93 aujourd'hui. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on attaque les centraux en ce moment. Ce sont les grands perdants de l'évolution du football depuis 25 ans, 30 ans. Et moi, je trouve qu'ils ont fait des excellentes rencontres, et notamment un contre un.
Vivien, c'est dur de pointer du doigt quelqu'un dans ce match-là, mais si on doit choisir entre les défenseurs et Manuel Neuer, et tu as entendu ce qu'a dit Polo, est-ce que toi, tu pointerais le doigt un peu plus sur Manuel Neuer, du coup ?
Non, pas du tout. Et de la même manière, Safonov, pareil. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il peut faire sur la grosse frappe d'Olise c'est compliqué. Non, Manuel Neuer, pour moi, il ne peut rien faire sur les buts. Il a pu être incriminé sur le match contre le Real, on l'a tous vu, mais c'est le seul match qu'il rate de la saison, de l'année. Il a fait quelques petites erreurs aussi en Bundesliga comme ça, de relance au pied, mais sinon sur sa ligne et de ce qu'il dégage aussi, la confiance qu'il donne aux défenseurs, non, c'est pas du tout le point faible. Pour moi, le point faible, c'est Stanisic qui doit pas jouer à ce poste-là, c'est Laimer qui doit jouer à droite, Davis à gauche, et ce sera, j'espère, le cas au match retour. Ouais.
Après la défense, on va donner la parole à l'attaque. Bayern PSG, doit-on s'attendre à un match retour aussi spectaculaire? On en débat dans l'After Allemagne avec Paulo Breitner et Vivien Tillen, supporter du Bayern Munich. Pour commencer sur l'attaque, messieurs, le Bayern de cette saison, et tu l'as évoqué tout à l'heure, Paulo, c'est juste assez dingue en termes de chiffres, 171 buts, dont 42 en Ligue des Champions et le tout en 50 matchs, toutes compétitions confondues. C'est absolument stratosphérique. Le tout pour l'attaque, c'est souvent l'éloge et à la fois aussi la critique du jeu hein, en Bundesliga, quand ça devient un produit européen, là pour le coup, ça devient de l'ordre du fantastique, alors qu'il y a des joueurs aussi, il faut le dire, d'un calibre peut-être différent. Au match aller, tiens, Rio Ferdinand avait souligné la puissance des ailiers dans ce match. Olise, Diaz, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Luis Diaz a-t-il plus impressionné, je me permets la question, que Michael Olise, dans le sens où il nous a peut-être plus surpris, en fait, là où le Français nous a habitués à ce genre de performance XXL cette saison, Polo?
Oui, dans le sens où Luis Diaz, c'est quand même le troisième larron des trois attaquants. C'est celui qu'on ne voit pas spécialement, c'est celui qui peut rater des matchs aussi. Olise, par exemple, cette saison, sa progression est très importante par rapport à la saison dernière, c'est-à-dire qu'il est devenu extrêmement stable. Harry Kane, on n'en parle même pas, parce qu'il marque quasiment à chaque but, il marque un but à chaque match, donc c'est réglé. Luis Diaz, ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut se planter dans des rencontres, et puis il peut te mettre un doublé. Et là, c'est ce qu'il a fait. La façon dont il est allé chercher, je trouve, le pénalty très généreux fait que, évidemment, ça offre une plus-value énorme pour le Bayern de mener 1-0. Mais c'est vrai que Luis Diaz, en Allemagne aussi, il passe un petit peu en dessous des radars. Donc, on va dire sur les trois, c'est peut-être le, entre guillemets, le moins bon des trois. Mais lorsqu'il y a les grandes rencontres, il est là. Et donc, évidemment, encore une fois, on ne peut pas le voir pendant 70 minutes, alors qu'Olise et Kane, on va les voir. Alors regardez, rappelez-vous, enfin, l'ouverture, parce qu'on parle du but, évidemment, de Luis Diaz, mais l'ouverture d'Harry Kane, elle est magnifique. Enfin, il y a très peu de neufs dans le monde aujourd'hui qui sont capables de faire une ouverture de la qualité de celle qu'a fait l'Anglais. Donc, Luis Diaz, très bien pour la finition, très bien pour aller chercher un penalty. Est-ce qu'il sera là tout le temps et pendant 90 minutes? Ça, c'est la grande question.
Luis Diaz, t'as impressionné encore plus peut-être que Olise. On sait que les supporters de Liverpool attendaient voir s'il allait progresser par rapport à l'équipe anglaise au Bayern. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être quelques petits creux par moment. Mais comme le disait Polo, au final, dans les grands matchs, il est incroyable. Et notamment là, sur cette demi-allée.
On le voit en Ligue des Champions, il est extraordinaire. Pour moi, il fait un meilleur match au parc qu'Olise, effectivement. Parce qu'il est constant sur tout le match. Alors qu'Olise, après, en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais ils sont très complémentaires, ils ont des qualités complémentaires. Et avec Harry Kane, c'est un trio qui est fantastique. Olise, il a plus ce côté meneur, un peu 10, décalé du côté. Et Diaz, il me fait plus penser, si on peut se permettre la comparaison, à un Ribéry un peu feu follet qui, voilà, dans ses gestes, dans ses dribbles, dans sa percussion, il arrête jamais.
Il met à Marquinhos sur son but, c'est tout le monde.
Ouais, c'est extraordinaire. Mais même quand il va chercher le pénalty, comme l'a dit Polo, il ne faut pas oublier qu'il traverse tout le terrain. Juste avant, il l'a fait plusieurs fois et techniquement, il était très très juste. Non, moi, je trouve, et même en championnat, il met des buts spectaculaires contre Leipzig, contre l'Union de Berlin, etc. C'est pour moi, et c'est sa première saison, il faut le rappeler aussi, sa première saison Bundesliga au Bayern et en Ligue des Champions, il est vraiment très décisif, hein, contre le Real Madrid notamment.
Polo, la blessure et donc l'absence d'Achraf Hakimi pour le match retour va certainement forcer Luis Enrique à replacer Warren Zaïre Emery du milieu de terrain au poste d'arrière droit. Zaïre Emery face à Luis Diaz, c'est le duel de ce match retour pour toi?
Alors c'est très important ça, parce que avant la rencontre, on se posait la question du banc du Bayern, qui a de gros problèmes en ce moment. Or, il y a des bonnes nouvelles, puisque Lennart Kahle et Bischoff sont revenus à l'entraînement et l'entraînement collectif. Bischoff ne sera peut-être pas là pour le match retour, mais en tout cas Bischoff lui sera dans le groupe. Ça a l'air de rien, mais on en est là aujourd'hui au Bayern Munich. Et donc c'est vrai que de l'autre côté, lorsqu'on voit la puissance, la rapidité et la qualité technique d'Hakimi d'un côté et de Mendes de l'autre, on se dit que c'est une sacrée moins-value pour le PSG. Et c'est pour ça que moi, je suis assez d'accord avec Vivien. Il va falloir travailler, évidemment, sur le côté gauche, sur le côté droit du PSG, évidemment, sur le côté gauche du Bayern à l'Allianz Arena. Il me semble évident aussi que tout ça risque de se jouer sur des détails. Or, plus on a de petits avantages, mieux c'est. Moi, ce que je peux reprocher, et on l'a vu au Bayern Munich, c'est que les absences de Gnabry, voire de Lennart Kahrl, fait que c'est pas Jackson qui va réussir à se mettre au niveau technique, je dis bien au niveau technique, qu'on a vu lors de cette rencontre. On a vraiment de chaque côté peut-être un banc plus important du côté du PSG, mais on a un 11 qui pour moi est très très impressionnant, j'ai envie de dire 12 si Gnabry était là, qui est très très important, mais dès qu'il va manquer quelqu'un, ça va être plus délicat du côté du Bayern. Et encore une fois, la fraîcheur, c'est pour ça que tout le monde sait que Compagnie va faire tourner ce week-end à domicile contre Heidenheim et qu'on va sûrement faire jouer des gamins de 18 ans, voire des espoirs à des U17 ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça va se jouer sur rien du tout. Et donc, le fait qu'Hakimi ne soit plus là, c'est quand même un sacré avantage pour le Bayern, c'est clair.
Vivien, est-ce que ça va être plus dur pour Luis Diaz face à un Warren Zaïre-Emery?
C'est vrai que le milieu parisien est très, très physique et très, très agressif.
Le jeu de domino, parce que ça va impliquer forcément que quelqu'un doit remplacer Zaïre-Emery au
ouais,
milieu. Oui,
il récupère
Fabien Ruiz. Encore, ouais. Léger hein, en termes d'intensité pour tenir un match de ce standing-là.
C'est vrai que dans un match comme ça, c'est un retour de blessure. Et on le voit même avec Musiala. Il y a du mieux hein, chez Musiala, mais il n'est pas encore prêt pour un match comme
ça. Diaz face à Zaïre-Emery, ça peut peut-être permettre au Bayern de gagner la bataille du milieu?
Alors je pense que déjà la bataille du milieu, ils l'ont gagnée au match aller avec Pavlovic, Kimmich, les retours de Kane, etc. Non oui, c'est vrai que Diaz... Après, Kimmich, c'est un très bon contre-attaquant. Défensivement, peut-être que Zaïre-Emery sera meilleur aussi. Il faut voir la tactique du PSG aussi, s'il joue beaucoup plus bas, s'il joue beaucoup plus physique aussi, s'il prend moins de risques. Il faut voir.
Bon, il y a une autre question aussi qu'on a envie de prendre avec vous, Polo et Vivien, c'est comment a été perçue la prestation de Michael Olise en Allemagne, puisqu'ici, en France, et vous allez écouter, Christophe Dugarry s'est régalé, il a vu du Zidane même chez Rotten sans flamme.
C'est un joueur hors norme. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est capable de faire, je pense que, moi je vais même aller peut-être un peu loin, je pense qu'il y a du zizou dans ce mec-là, dans sa façon d'être un peu nonchalant, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, sa vision du jeu, de le dépasse. Je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'un crack. Je pense qu'on est au tout début de ce qu'il est capable de faire encore, ce garçon.
Polo, comment est vu Michael Olise en Allemagne? Est-ce qu'on voit du zizou également, lui, là-bas?
Non, la comparaison n'a pas été faite. Déjà, n'oublions pas qu'Olise au Bayern joue côté droit et que Zizou, même quand il était jeune de mémoire, ça remonte à quelques années maintenant, lorsqu'il jouait à Cannes sous les ordres de Luis Fernandez, il était meneur de jeu déjà à l'époque. Là, c'est un petit peu différent, hein, le positionnement d'Olise. On compare plus Olise et Luis Diaz à Robben et Ribéry.
Vivien, est-ce que toi, de ton côté, tu vois peut-être techniquement parlant ce que Christophe Dugarry insinue quand il voit du Zidane chez Olise?
Oui, dans la gestuelle, dans la manière de contrôler le ballon, ses ouvertures, les passes, etc. C'est vrai qu'on peut éventuellement voir du Zidane dans lui. Bien sûr, voilà, sur l'aspect esthétique, en tout cas, c'est un argument qui s'entend, c'est sûr.
Alors, j'ose reposer une question que j'avais déjà posée à Michael Postol, notre confrère allemand du magazine Kicker. Si on ne tient pas compte, encore une fois, c'est bien important d'écouter, du palmarès, notamment des Gerd Müller, des Michael Ballack, des Ribéry, des Robben, constellation de légendes bien sûr qui sont passées par le Bayern de Munich, et qu'on reste sur la valeur intrinsèque du joueur, Michael Olise est-il, ou est-ce qu'on peut se poser la question, le joueur, le footballeur le plus doué offensivement à avoir porté le maillot bavarois dans l'histoire?
Alors, je dirais que non, déjà, parce que, alors, malgré ses qualités, bien entendu, qui éclatent là.
La facilité qu'on le voit avec le ballon.
Je pense qu'il a une marge de progression, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il a déjà ce niveau-là, mais je pense qu'il a une marge de progression
extraordinaire. Est-ce qu'il
peut le devenir? Il peut potentiellement devenir, après, voilà, avec les trophées, on verra ça aussi. Mais non, il y a des joueurs...
Mettons les trophées de côté. On parle vraiment de ses qualités techniques.
Pour moi, un Ribéry, un Robben, Uli Hoeneß, même Mehmet Scholl, etc., techniquement, qui était très, très fort. Il y a eu un paquet de très bons joueurs au Bayern. Il s'inscrit dans cette lignée-là, on va dire.
Et maintenant, à lui de confirmer sur le moyen terme et j'espère le long terme.
Polo, pour terminer, raconte-nous un petit peu en Allemagne, on est sur de la méga confiance pour le match retour ou tu sens qu'il y a un petit peu de crainte pour que ça n'y arrive pas en fait cette fois ?
Alors ce qui est très important, lorsque le Bayern joue, habituellement on se pose la question, est-ce que le Bayern va se qualifier ou pas ? Là, les gens étaient tellement époustouflés par la rencontre qu'on a même pas, on se pose même pas la question si le Bayern va aller en finale. Par contre, avant la rencontre, tous les journalistes que j'ai écoutés en direct, les chaînes allemandes, que ce soit Didier Hamann, que ce soit des commentateurs, que ce soit des journalistes bien connus, ils étaient sûrs que le Bayern allait perdre avec un but d'écart au Parc, mais qu'à la fin de la saison, c'est le Bayern qui allait soulever la coupe. Donc voilà, ça te donne un petit peu l'ambiance qu'il y a. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis assez impressionné par ça. C'est ce que j'aime bien en Allemagne, c'est que évidemment en France, on s'emballe si on lisait, mais Robben et Ribéry, ils ont fait une épopée, ils ont fait une période très longue. Et donc, les supporters allemands disent très clairement, oui, moi, ça ne me dérange pas de comparer Olise à Robben, par exemple, mais on va attendre quelques années. C'est que c'est quand même le Bayern Munich, quoi. Faut être réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas sur une saison qu'on va parler de toi comme ça. Il faut que tu restes dans l'histoire du club.
Ce n'est pas forcément la question sur le CV et la durée ou le palmarès, parce que bien entendu, ça ne se joue pas du tout encore. C'est vraiment sur ce que le joueur est capable de faire avec un ballon au pied. Et Robben et Ribéry ont fait des choses exceptionnelles, bien sûr. C'était des immenses joueurs. Mais est-ce que Michael Olise, dans ce qu'il montre, quoi, quand Christophe Dugarry parle un peu de Zidane, ça veut dire que techniquement, ce joueur-là, on le place sans doute au-dessus des nuages, quoi.
Oui, mais alors moi, je vais te poser une question très simple. Pourquoi est-ce qu'en France, on parle toujours du Ballon d'Or pour Olise et pourquoi, dans ces conditions, on ne parle pas d'Harry Kane pour le Ballon d'Or ?
Exactement.
Moi, je voudrais juste qu'on m'explique.
Ouais, parce qu'on est un peu plus chauvin, c'est tout, en France. Ouais,
Mais je pense que même sur le trio, ce n'est pas forcément le meilleur des trois joueurs. Donc déjà, en partant de ça, ouais, je suis d'accord avec Polo, pour le coup.
Bon, une dernière question.
Mais par exemple, Kimmich-Pavlovic,
oui.
À deux. Ils ont dominé le milieu de terrain à 3 du PSG quand même. C'est assez impressionnant. Personne ne parle de Pavlovic. C'est un joueur de l'ombre, etc., qui a 21 ans, qui est sorti. Je sais, on en discutait souvent avec Vivien il y a déjà 2 ans. On ne savait pas trop ce qu'il allait devenir, etc. Et on voit bien ce qui est le boulot qu'il a bas. Personne n'en parle de Pavlovic. C'est vraiment le joueur de l'ombre utile pour l'équipe. Arbeitstier, c'est un monstre de travail, une bête de travail. Et voilà, et c'est assez impressionnant ce qu'il fait.
Et qui va sans doute devenir un très grand joueur cadre du Bayern dans les années à venir. On l'attend au tournant, bien sûr, avec la Coupe du Monde qui arrive et avec l'Allemagne confiant ou un petit peu inquiet pour ce match retour, Vivien ?
Plutôt confiant. C'est rare que je dise ça et peut-être que je me trompe et que je vais me porter à la poisse tout seul. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure à votre producteur, si le Bayern avait fait le même match que Paris, donc gagné 5-4 à Munich avec les mêmes conditions en ayant mené 5-2, malgré la victoire, avant d'aller au Parc, j'aurais été vraiment très déçu et plutôt pessimiste. Donc là, je suis plutôt... Disons que le scénario et le côté mental de revenir à 5-4, de ne pas lâcher et surtout d'avoir tenu le ballon au Parc des Princes quand même la plupart du match, ça me donne un peu plus de confiance et je vois bien le Bayern. Alors, je ne dis pas que ça va du tout être facile, hein, mais ça peut aller en prolongation, au pénalty, etc. Mais disons que cette saison, le Bayern... Voilà, ils font quand même une saison extraordinaire à tous les niveaux, comptables, les records, etc. Et je les vois bien aller en finale de Ligue des Champions pour valider un peu cette saison.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Vivien Tillen d'avoir été avec nous.
Merci
beaucoup Polo Breitner. On se retrouve tous les lundis dans l'After. C'était l'After Allemagne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
RMC After Allemagne.